Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Voilà, c'est la bénédiction qu'il y a dans le livre des Nombres, au chapitre 6, qui sert de, selon ce que dit le livre des Nombres, qui doit servir de formule type de bénédiction. Et je ne voulais pas commencer ce premier culte de l'année, un 1er janvier, sans avoir lu pour vous cette bénédiction, puisque ce sont les vœux qu'on se souhaite les uns les autres. Et je crois que s'il y a des vœux à souhaiter, ce sont des vœux d'une bénédiction, c'est-à-dire une parole positive pour tout le monde. Donc je voulais vous accueillir avec cette parole. Cette bénédiction du livre des Nombres est aussi une promesse d'une certaine manière, et je crois que c'est important de le souligner. Elle porte en elle la paix, c'est-à-dire la, je veux dire que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix, c'est-à-dire la plénitude finalement de la vie d'une certaine manière, puisque le shalom c'est un peu ça, ça veut dire la paix, évidemment pas d'armes. Ça va de soi, mais c'est plus que ça. C'est véritablement quelque chose qui implique la paix du cœur, la tranquillité, d'une certaine manière. Et donc, que la paix soit avec vous, évidemment, je crois que c'est tout à fait important de le souligner lorsque nous disons souvent que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur. Eh bien, ce ne sont pas que des formules qu'on répète comme des incantations, mais ce sont des mots qui ont du poids. Alors, que la bénédiction de Dieu soit sur chacune et chacun d'entre vous, sur toutes celles et tous ceux auxquels vous pensez, et évidemment ce début d'année, et sur le monde aussi, je crois que cela est évident, puisque vous savez que l'actualité est toujours assez chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Vivez ce moment comme il doit être vécu, dans l'intimité, puisqu'on n'est quand même pas très nombreux, vous êtes les rescapés de la nuit du Nouvel An. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop chaos, évidemment, vous avez la sagesse du pasteur, qui ne boit jamais d'alcool, ce que vous savez, et qui fait attention à ne pas avoir trop d'excès, mais vous n'êtes pas forcé d'avoir une éthique protestante et calvinienne, qui est parfois un peu rude, mais j'espère que vous êtes à peu près en forme. Et alors nous chanterons le premier psaume, ce que je vous invite à chanter, le psaume 1. Je me suis dit que là aussi, premier culte de l'année, un 1er janvier, on pouvait chanter le psaume 1, je veux dire. Ouais, ça fait partie de, je ne sais pas pourquoi, il y a les psaumes 1, 2, 3, 4, on les chante pratiquement jamais dans nos églises, et pourtant ils sont des grands, grands psaumes. Hein. Voilà, donc je vous invite à chanter en entier le psaume 1. Vous ne connaissiez pas trop celui-là. Hein. Vous voyez que les paroles sont sympas, la musique aussi. Hein. Il y avait un petit air d'été dans ces paroles, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous invite à lire une succession de textes, là, puisqu'on est ce premier jour de l'année, donc, et que s'ouvre devant nous cette année 2017. D'hier, je voulais réfléchir un petit peu avec vous sur le thème du départ et de la bénédiction. Donc, je voudrais vous lire le texte de la Genèse au chapitre 12, les versets 4 et 5. Voilà, Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme, Sarah, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Voilà. C'est le début de l'aventure, hein, de la Bible, là, finalement, parce que tout va partir de là. Alors, c'est vrai que lorsqu'on écrit cette histoire d'Abraham, le peuple est déjà constitué et réécrit son passé, comme on le fait souvent lorsqu'on fait œuvre d'histoire. Et l'histoire n'est jamais neutre. On pourrait avoir une longue discussion philosophique sur ce sujet. Je veux dire, évidemment, il y a des ancêtres fondateurs qui sont là, comme Abraham, et avec cette idée que tout commence précisément par un départ. Et je pense que quand nous recommençons d'année en année des cycles, à chaque fois c'est un nouveau départ, à l'instar d'Abraham qui quitte son pays, sa famille, pour regarder devant, finalement. Et c'est, je crois, l'essentiel, c'est toujours de regarder devant soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire cas du passé, évidemment, ce serait une ineptie, mais je crois que véritablement c'est par devant qu'il faut toujours regarder. Alors je vous invite à prendre, vous resterez assis, vous ne levez pas à ce moment-là, le psaume 89, la strophe 1. Voici un deuxième texte de départ, de commencement, d'aventure aussi. Évidemment, là aussi, c'est un texte fondateur. Dans l'Exode, au chapitre 12, les versets 37 et suivants, les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, environ 600 milliers de fantassins, les hommes sans compter les enfants. Tout un ramassis de gens monta avec eux, avec du petit et du gros bétail, en lourds troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, elle donna des galettes sans levain, car elles n'avaient pas levé. Chassés d'Égypte, sans pouvoir prendre leur temps, ils ne s'étaient même pas fait de provisions. Voilà ce deuxième texte de départ. Vous connaissez l'histoire de l'Exode et ses difficultés qu'il y a eu pour que le Pharaon laisse partir Israël avec la dernière plaie d'Égypte, qui est la mort des premiers-nés d'Égypte, évidemment, qui sera décisive à ce moment-là et qui est lourde de conséquences théologiques, évidemment. Mais le peuple part. Il part véritablement en compagnie de Dieu. Et il y a là des choses qui sont dites et qui montrent qu'il y a derrière ce départ une présence de Dieu qui est bénédiction. Les 600 000 fantassins, sans compter les enfants, on ne parle même pas des femmes, c'est vous dire, s'ils sont nombreux. Je suis désolé, à l'époque, la gent féminine ne compte moins qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire. Et puis il y a des lourds troupeaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué les petits bétails et gros bétails en lourds troupeaux, comme dit le texte. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça, c'est un signe de bénédiction. Vous savez que la richesse n'est pas toujours mal vue dans la Bible. Elle peut être signe de bénédiction. Il ne faut pas le perdre de vue. Le tout, c'est de ne pas être accro à la richesse, de ne pas faire de la richesse une idolâtrie. C'est ça qu'il faut éviter, évidemment. Mais voilà, Israël part avec cette présence de Dieu, cette bénédiction de Dieu qui se manifeste à travers la richesse en troupeau, etc. Et il part pour une aventure qui sera l'aventure de l'Exode, que j'espère vous connaissez un petit peu. Alors je vous invite à rester assis toujours et à prendre la deuxième strophe du psaume 89. Un troisième texte qui montre la bénédiction de Dieu sur Israël, dans le livre d'Esdras. En général, dans le monde libéral, on n'aime pas trop Esdras. Parce que Esdras, c'est le rétablissement de la loi, et du culte au temple de Jérusalem, dans ses rites, dans sa rigueur, etc. Donc on n'est pas très familier de ce livre. Mais je vous invite à lire le premier chapitre de ce livre d'Esdras, les premiers versets de ce chapitre. Or, la première année de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur sortie de la bouche de Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, afin que dans tout son royaume, il fît publier une proclamation et même un écrit pour dire « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, tous les royaumes de la terre, le Seigneur, le Dieu des cieux, me les a donnés. » Et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda, parmi vous, qui appartient à tout son peuple. Que le Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, bâtir la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où réside le reste du peuple, que les gens de ce lieu apportent à chacun de l'or, de l'argent, des biens et du bétail, ainsi que l'offrande volontaire pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Voilà ce qu'on appelle l'édit de Cyrus, qui doit dater, si je ne me trompe, de 526. Si je me trompe, il faut me le dire, mais à une année près, je suis à peu près sûr de moi, de le dire. Hein. Et cet édit de Cyrus, il permet aux Hébreux de retourner à Jérusalem dans les conditions qui viennent d'être dites là, d'après ce que dit le livre d'Esdras. Et en fait, l'édit de Cyrus ne concerne pas que Israël, mais concerne tous les peuples de son empire. Hein, les Perses étaient des gens intelligents qui, après les guerres de Babylone et surtout des Assyriens et les déportations qui avaient eu lieu, avaient eu la bonne idée, ces Perses, de dire aux populations déportées « Rentrez chez vous et remettez-vous au travail, etc. Et adorez vos dieux et ainsi de suite. » Voyez, hein, ainsi les Perses étaient assez populaires finalement et ont laissé un souvenir dans l'histoire qui est plutôt positif. Bon, ça ne devait pas être des agneaux parce que ce sont eux qui ont inventé la crucifixion comme supplice. Vous voyez que personne n'est parfait, hein, mais enfin c'est comme ça. Et alors ce que je voulais dire par là, c'est que cette bénédiction dont Israël a profité, c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Vous voyez, hein, toutes les nations de l'Empire perse qui allaient de la Turquie actuelle aux rives de l'Indus, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'elle représente, toutes les populations qui étaient là, l'Afghanistan, la Bactriane, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, la Palestine, tout ça, toutes les populations qui étaient là vont avoir une sorte de rayon de soleil qui va venir, une grande civilisation qui va s'installer là, finalement, avec cet édit de Cyrus. Je crois que c'est une bénédiction là aussi qui est intéressante et qui ouvre la porte à une nouvelle phase de l'histoire, finalement. Hein, parce que lorsque Alexandre va entrer dans cet empire, il va, grâce à cet empire et à cette civilisation, pouvoir rencontrer du monde, etc., et fonder la civilisation hellénistique. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant que de réfléchir un petit peu à tous ces événements de l'histoire qui sont là et qui sont quand même éminemment positifs. Donc voilà, c'était l'édit de Cyrus dans le livre d'Esdras. Et je vous invite à prendre la troisième strophe du psaume 89. Voilà, un dernier texte dans ces mouvements qu'il y a, puisque bon, Abraham est parti, les Hébreux ont quitté l'Égypte, les exilés retournent à Jérusalem dans l'Empire perse, et voilà un nouveau départ, là aussi un mouvement aussi qui est important, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et il leur dit « Allez au village qui est devant vous ». Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le, amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Répondez, le Seigneur en a besoin, et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis, ils ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là dirent, qu'avez-vous à détacher cet ânon ? Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jérusalem, à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans les campagnes. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Voilà ce dernier texte que je voulais vous lire avec vous, là, dans cette partie un peu liturgique de notre moment de culte. C'est au final un dernier mouvement, Jésus qui rentre à Jérusalem pour finalement mettre une sorte de point final, si je puis dire, à tous ces mouvements qui ont eu lieu dans la Bible et qui me semble extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toujours cette bénédiction qui est là, qui est signifiée d'une manière ou d'une autre lorsqu'il y a ces événements importants qui nous mettent en route et qui vont faire passer finalement la bonne nouvelle. Et vous savez que eh bien, ça continuera, les apôtres vont aller apporter cette bonne nouvelle et les églises pendant le relais finalement dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui et sans doute jusqu'à demain encore. Voilà, bouger, partir à l'aventure et partir avec la bénédiction. Je vous invite à chanter le psaume 89, la quatrième strophe. Père, nous avons fait un grand parcours à travers les textes du souvenir, du témoignage et de l'actualité finalement, parce que ces textes nous renvoient à aujourd'hui. Sortir de soi-même, quitter son pays, aller vers des horizons nouveaux, évoluer, changer, rencontrer, remettre en cause, cela nous semble peut-être nécessaire mais n'est pas toujours facile. Alors Père, nous voudrions te remettre nos vies avec leurs questionnements, leurs joies, leurs déceptions, leurs projets aussi, puisqu'aujourd'hui nous formulons des projets selon les traditions. Pourvu que ces projets voient le jour avec ton consentement et sous ta bénédiction, bien sûr. Oui, Père, nous nous en remettons à toi, parce que chaque fois que nous prenons la décision d'aller de l'avant, tu es présent. Chaque fois que nous voulons quitter notre confort, remettre en cause, il y a une parole de bénédiction qui accompagne cela. Oui, Père, merci. Merci de nous accueillir tels que nous sommes et de nous relancer toujours dans la vie. De nous permettre de jalonner nos vies de fêtes comme celle du premier de l'an, qui ramasse ce qui s'est passé et qui ouvre la voie à ce qui est à venir. Oui, Père, bénis nos vies et la vie de toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons, et de bien d'autres encore, qu'ils soient des parents, des proches, des amis, mais aussi des gens qui nous sont indifférents, voire des gens que nous n'aimons pas, et qui sont eux aussi, envers et contre tous, nos frères, devant toi. Merci Père de nous entraîner ainsi dans un monde de fraternité, un monde ouvert où les gens puissent se rencontrer dans leurs différences, dans leurs spécificités, pour pouvoir construire, bâtir, toujours du nouveau, toujours en avant. Amen. Voilà, je vous invite à entendre deux textes. Le premier dans les psaumes, le psaume 67, c'est un tout petit psaume que je vous lis en entier, il fait 8 strophes, 8 versets. Que Dieu nous prenne en pitié et nous bénisse, qu'il fasse briller sa face parmi nous pour que sur la terre on connaisse ton chemin et parmi tous les païens ton salut. Que les peuples te rendent grâce, Dieu, que les peuples te rendent grâce tous ensemble, que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes les peuples avec droiture, et sur terre tu conduis les nations. Que les peuples te rendent grâce, Dieu, que les peuples te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné sa récolte, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière le craigne. Voilà, donc c'est le psaume 67. Et puis, ce passage de l'Épître aux Galates que vous connaissez, au chapitre 4, les versets 1 à 4. « Telle est donc ma pensée, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, lui qui est maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. » Et nous, de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais quand tu es venu l'accomplissement du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et assujetti à la loi, pour payer la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Voilà, je vous invite à prendre le cantique 244 en entier. Oui, Père, que la paix descende vraiment au cœur même de tous les enfants du monde. Cette paix après laquelle nous courons sans cesse et sans cesse, année après année, siècle après siècle. Oui, que ta présence soit pour le monde un sujet de joie, de liberté et vraiment une excellente nouvelle. Amen. Voilà, le thème de partir et d'être béni me semble important. Il semble important d'abord parce qu'on râle beaucoup. Et on perçoit mal les bénédictions. Vous savez, je ne sais pas si c'est un folklore de dire que les Français sont des râleurs, mais on est quand même ainsi fait que lorsque quelque chose ne va pas, on le remarque assez vite, et bien souvent on s'en prend à Dieu directement en disant « mais qu'est-ce que fait le bon Dieu ? Si Dieu était là, ça ne se passerait pas comme ça ». Et c'est vrai que si on a des idées, certaines idées de Dieu, on pourrait dire des choses pareilles. Si on pense que Dieu est une sorte de super magicien qui peut tout gérer, tout faire et faire advenir ce qu'il voudrait selon sa pensée, évidemment, quand quelque chose va mal, on pourrait se tourner vers lui. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai du mal à entrer dans ce type de dogmatique, et sans doute vous aussi, Mais dans tous les cas, on râle souvent et on s'en prend souvent à Dieu et on a l'impression que on n'est pas toujours dans une bénédiction, mais souvent dans une malédiction. En général, ce qui l'emporte, outre ces phénomènes contre lesquels on s'insurge dans nos vies et dans la vie des autres, c'est surtout l'indifférence, finalement, qui prime dans nos pays occidentaux. Mais ce qui m'étonne souvent, c'est qu'on a du mal à reconnaître le bien. Le bien nous semble tellement normal, finalement, qu'on n'y prend plus garde. La preuve, c'est que dans les bibliothèques de théologie, sur la question du mal, et en philosophie, vous avez ce qu'il faut. Soit Scheller, Hegel, jusqu'à Paul Ricoeur, vous avez des philosophes qui se sont penchés sur le problème du mal. Quant à la théologie, en ce qui concerne le péché, il y en a quelques volumes. C'est-à-dire qu'ils font la joie des étudiants en théologie et des dogmaticiens. En revanche, en ce qui concerne le problème du bien, il y en a beaucoup moins. Moi, j'en connais qu'un, c'est celui de Wilfred Monod. Il doit faire dans les 900 pages ou 1000 pages, enfin, c'est une grosse étude. Voilà. Mais je ne connais pas d'autres livres de philosophes ou théologie qui disent le problème du bien. Parce que si le mal est un problème, le bien est aussi un problème. Pourquoi tel malheur me tombe sur la tête ou sur la tête des gens qu'on aime, et pourquoi le bien leur tombe dessus aussi ? Après tout, il y a la même question. Mais c'est vrai que le mal laisse souvent des traces qui sont bien difficiles à effacer. Et on le comprend, évidemment. Il y a un problème de reconnaissance. Et je crois que c'est important de poser cette question. Après l'exil à Babylone et dans l'Empire perse, la question se pose aux Hébreux. La question se pose, est-ce que nous sommes bénis ou est-ce que nous sommes maudits, finalement ? Parce que les années qui précèdent le retour à Jérusalem, et celles qui vont suivre aussi d'ailleurs, sont des années extrêmement difficiles. On ne peut pas dire que ce petit peuple du Moyen-Orient ait une histoire paisible. Pour elle, l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à des périodes récentes du XXe siècle, hélas, trop connu. Problème de reconnaissance après l'exil. Et ce psaume 27 est intéressant parce que les psaumes ont été écrits pratiquement tous après l'exil. Ce psaume 27 est intéressant parce que c'est un psaume de reconnaissance, je trouve. Visiblement, l'homme qui a écrit ce psaume se sent vraiment sous la bénédiction de Dieu. Il le dit de manière assez enthousiaste, c'est le cas de lire en sens propre et étymologique. Et il le dit dans une sorte de progression, moi, que je trouve assez sensationnelle, assez agréable à lire. Il part d'une bénédiction sur Israël d'abord, puis après il passe au peuple et aux nations, je ne sais pas si vous avez remarqué, puis il finit par la création. Une sorte de crescendo à travers ces quelques lignes de ce psaume 27 et qui conduit d'une bénédiction au peuple et qui s'ouvre à une bénédiction universelle finalement à toute la création. Et ça, c'est déjà un message assez extraordinaire, parce que dans ces quelques lignes, dans ces 6 ou 7 versets de ce psaume, il y a pratiquement toute la bonne nouvelle qui est contenue, finalement, là-dedans, à travers cette bénédiction et reconnaissance de bénédiction. Alors, c'est vrai que les bénédictions, dire du bien, c'est ce que ça veut dire, et les paroles dites sont des paroles qui sont des paroles efficaces d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand on bénit quelqu'un, c'est pas une bénédiction comme ça, histoire de se débarrasser, comme ça arrive trop souvent malheureusement, mais ce sont vraiment des paroles fortes, une vraie bénédiction. La bénédiction, est-ce que on doit la vivre ou pas ? C'est vrai que l'actualité générale n'est pas terrible. moins qu'on puisse dire. Vous savez qu'il y a eu encore un attentat hier soir. Il y en a eu un il y a deux ou trois jours en Irak, et ainsi de suite. Vous savez que, hein, au cœur de l'Afrique, dans le berceau de l'humanité, les peuples sont en train de se réarmer, hein, pour reproduire un peu le schéma de la guerre civile entre les Hutus et les Tutsis. Le Sahel est toujours en guerre, et ainsi de suite. Enfin bon, je ne parle pas des injustices dans les bidonvilles, hein, de pays du tiers-monde, des bidonvilles qui, il faut quand même en avoir conscience, atteignent 50 ou 60 000 personnes. Vous voyez, ce sont des choses dont on n'a pas tellement conscience chez nous, parce qu'on est tellement dans le confort et dans la richesse qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe ailleurs. On n'arrive pas à réaliser. Mais imaginez qu'une ville comme Agen, par exemple, soit un bidonville. Et pour un exemple parmi d'autres, hein, je veux dire. Et c'est quand même la réalité dans énormément de pays du monde. Est-ce que la bénédiction est là ou pas, hein? Et c'est bien la question qui se pose. Hein, le bien nous semble normal, inaperçu. Le mal est là, il s'étale de manière vulgaire, envahissante, aussi pesante, c'est le cas de le dire. Et pourtant, le bien, il y en a du bien. Ce matin, tous les dimanches matin, j'écoute la radio. Tous les matins, j'écoute la radio à 6 heures du matin. Pour rien vous cacher, la force est de savoir quelle est ma vie privée, mais enfin bon. Et je l'écoute avec assez d'attention. Ça m'intéresse, évidemment. Hein, la parole que je vous annonce, j'essaie de l'incarner dans nos vies, évidemment. Et il y a eu une fête de Nouvel An pour les gens de la rue. Vous voyez ? C'est quand même vachement sympa. Hein. L'association qui a fait ça, chapeau, c'est quand même vraiment bien. Hein. Je ne sais pas si vous avez dansé avec un SDF déjà. Non, ça ne vous est jamais arrivé. Ah, c'est une épreuve, hein. Il faut le faire. Prendre dans ses bras quelqu'un de la rue, particulièrement marqué, bon, voilà. Alors c'est sympa parce que les personnes sont émerveillées, mais voilà, ils ont dansé avec les membres de l'association qui a organisé la chose. Vous voyez, ils ont fait la fête. Ouais. Et le journaliste qui passait par là a posé la question à une dame qui est à la rue, qui a dit « Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2017 ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Ben, même le Nouveau Testament, là, est dépassé. Parce que lorsque Jésus pose la question à Bartimée ou au paralysé, le Bartimée dit « Que je retrouve la vue. » Le paralysé dit « Que je puisse marcher. » Mais la dame SDF, elle a dit qu'il y ait la paix sur le monde. Elle n'a pas dit que je trouve un logement ou de la dignité humaine. Elle a dit les autres. Hein? Et ça, j'ai trouvé, ça c'est un truc, je me dis, je ne peux pas laisser passer ça. Il y a quand même dans le monde des rayons de soleil qui sont extraordinaires. Vous avez quelqu'un qui est à la rue avec ce que ça signifie, qui puisse, à la question posée, qu'est-ce que vous souhaitez cette année, pense aux autres, d'abord et avant tout. C'est quand même, si ce n'est pas la bonne nouvelle, je me demande ce que c'est. Même Jésus n'a pas vécu ça avec les gens qu'il a rencontrés, il faut quand même le faire. Je veux dire, comme quoi c'est intéressant de prolonger la réflexion. Voilà. Mais tout n'est pas perdu dans ce monde. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une bombe, il y a un type qui a mitraillé une boîte de nuit à Istanbul cette nuit. C'est vrai qu'il y a deux jours, c'était un marché en Irak, hein, bon, qui a subi l'assaut des terroristes. Je veux dire, et ainsi de suite. Mais il y a quand même des choses qui sont extraordinaires. Ça ne fait pas de bruit, ce vœu de cette dame. Et c'est pourtant tellement essentiel. Ça dit quelque chose du fond de l'humain, quelque chose d'assez extraordinaire. Ça, c'est une vraie bénédiction. Ça, c'est un vrai vœu, hein, tel qu'il faudrait qu'on puisse le vivre. Ouais, nos conduites personnelles, elles sont aussi ce qu'elles sont. Hein, dans le monde, il y a l'actualité, il y a les gens, il y a tout ça, puis il y a nous. Moi, je trouve qu'on est pas si mal que ça. D'abord, vous êtes venu ce matin. Vous avez bravé un froid, les premiers grands froids. Ou peut-être que vous avez fait la fête hier soir un petit peu. Je ne sais pas. Puis vous arrivez comme ça le matin, pour entendre une parole, pour partager, raconter deux ou trois blagues autour du café. Je ne sais pas, moi, des choses assez sympathiques. Je veux dire, voilà. On n'est pas si mal que ça, quand même. Je sais que vous participez à la vie d'église, que vous aidez beaucoup de gens à votre niveau, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un sourire, une pièce donnée à l'un ou l'autre, ou participation à des associations, que sais-je encore. Mais c'est vrai qu'aussi dans nos vies, il y a des trucs qui ne vont pas. C'est vrai qu'on n'est pas toujours très clair, hein, c'est moins qu'on puisse dire. On a des pans de vie qui... on rumine des trucs. Bref, voilà, et c'est souvent pesant. Hein, je veux dire, vous le savez aussi bien que moi. Et pourtant, la bénédiction, elle est là. C'est ça qui est intéressant. C'est que quelle que soit l'actualité, hein, que ce soit l'actualité classique que la presse nous donne, comme cela, dans l'émotionnel et le tragique, donc d'une qualité assez douteuse, mais ou que ce soit comme ça une parole d'une personne qui vienne au milieu de l'actualité illuminer cette actualité, je veux dire, que ce soit nos vies, et qu'elles soient bien dans certains domaines, un peu moins bien dans d'autres domaines, vous savez, comme dans la parabole du semeur, où on a un peu de bonne terre d'un côté, puis d'un autre côté, on a quelques cailloux, c'est comme ça, je veux dire, mais... Voilà, la bénédiction, elle est là, elle est pour tous, c'est pour tout. Quoi qu'il arrive, quelle que soit notre conduite finalement, et c'est ça qui est important. Mais ce qui est important, je dirais, si la bénédiction elle est là, si elle nous est donnée à tous, avec nos vies, nos qualités, nos défauts, ce qui est important c'est de pouvoir le reconnaître. Je crois que, et c'est là où ça se passe finalement, c'est de le reconnaître. Parce que si je me dis, si j'ai cette bénédiction, malgré ma vie, malgré l'actualité, malgré l'histoire, malgré les injustices dans le monde, parce qu'il y a un hôpital qui s'est ouvert dans tel pays, parce qu'il y a une SDF qui pense aux autres, parce que ceci ou cela, il y a cette bénédiction, c'est pour que cette bénédiction soit entendue, afin qu'on puisse la recevoir dans la reconnaissance. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas un accablement de fautes qu'on va chercher. Vous savez, moi j'ai des copains, quand j'étais petit, je les ai accompagnés à la confession. Vous savez, je trouve ça rigolo, parce qu'il y avait le curé dans sa boîte, là, tout, moi protestant, descendant de Huguenot, c'était un peu exotique, tout ça, je veux dire. Et donc j'allais les accompagner. Alors les malheureux, ils cherchaient toujours quelles bêtises ils avaient pu faire. Ils avaient mangé un carambar en trop, vous savez, des trucs comme ça. Ils cherchaient. Ça n'a pas de sens, je veux dire, de chercher à s'accuser complètement. Non, la repentance, c'est d'abord une reconnaissance. Dis, oui, c'est vrai, c'est pas terrible, mais pourtant, il y a une bénédiction qui est dite. Ouais, il y a d'abord la bénédiction. Avant la grâce, avant la repentance, il y a d'abord une parole positive qui nous est donnée. Une parole positive qui va nous permettre précisément, dans la tranquillité, dans la paix, en dehors de toute forme de culpabilité, de dire à Dieu, là, j'ai besoin d'être aidé, et ainsi de suite. Voilà, là, j'y arrive pas, ou n'importe, enfin, voilà. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est un vieux débat, vous savez, il ne faut pas croire que ce dont je parle là est une trouvaille. Hein, les calvinistes, avec la double prédestination de Calvin, vous savez, qui a été un grand moment de libération au XVIe siècle. Vous savez qu'au XVIe siècle, on pensait que tout le monde était maudit. On a perdu de vue, ça. Imaginez qu'au XVIe siècle, on pensait que personne n'était entré au paradis. Personne n'entrait au paradis. Il y avait tellement de violence, d'injustice au XVIe siècle, les guerres civiles, un peu partout dans l'Europe, avec la réforme, la Renaissance et tout ça. Avec l'arrivée massive de la mort depuis un siècle et demi, avec la peste, les armes à feu, des choses comme ça, on pensait que personne n'entrait au paradis. Oui. Et lorsque Calvin arrive, il dit, mais non, il y en a quelques-uns qui sont prédestinés à entrer au paradis et à être sauvés. Ouf, on a dit, quand même, tout n'est pas perdu. Et donc au XVIe siècle, la double prédestination a été un élan de bonne nouvelle, finalement. On l'a vu de manière extrêmement positive, c'était très très libérateur. Alors qu'aujourd'hui, on dit, oh, mais Calvin, vous rendez compte, il y en a qui sont prédestinés à l'enfer, puis d'autres au salut, comment Dieu fait son choix, etc. Vous voyez, aujourd'hui, ça passe plus du tout. Mais dès la deuxième génération de calvinistes, il y a eu des contestataires. Moïse Amiro, par exemple, évidemment, à Saumur, à l'école de Saumur, a à poser cette question, a été le premier à poser cette question, et puis ça va continuer au début du XVIIe siècle aussi. Bon, il va y avoir des grands débats, la politique va s'en mêler, etc., dans les pays protestants. Je ne vous refais pas l'histoire, mais ce n'est pas le but. Mais on a reposé la question de cette prédestination. Et finalement, petit à petit, s'est fait l'idée que la prédestination, elle est là, mais elle est universelle. Voilà. C'est-à-dire que tous sont prédestinés au salut. Et théologiquement parlant, en dehors de toute circonstance historique, je comprends bien Calvin, évidemment, mais en dehors des circonstances historiques, je crois que théologiquement parlant, la vérité, elle est là. L'amour de Dieu ne se découpe pas comme cela, n'est pas sélectif. Un amour n'est pas sélectif. Je veux dire, le pardon sur la croix n'est pas sélectif. Je veux dire, ce sont des valeurs qui sont posées dans l'absolu et dans l'éternité. C'est-à-dire qu'elles étaient valables hier, elles sont toujours valables aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas une époque, hein, je veux dire, mais il y a une permanence qui est là. Et donc, je crois que la prédestination, elle est là, elle est universelle. Elle sera toujours universelle pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Imaginez les pires des hommes que vous puissiez imaginer, comme cet homme qui est rentré dans cette boîte de nuit et qui a mitraillé tout le monde, cette nuit par exemple. Eh bien, il est prédestiné au salut, comme nous. Ça semble énorme, mais c'est l'amour de Dieu dont il s'agit. C'est la justice de Dieu dont il s'agit. Ce n'est pas la justice des hommes, ce n'est pas l'amour des hommes. Et c'est ça qui nous dépasse et qui parfois nous scandalise, effectivement, véritablement. Et si on y réfléchit, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que cet homme qui a mitraillé des jeunes là, qui passaient le nouvel an dans cette boîte de nuit va réaliser qu'il est sous la bénédiction de Dieu, d'un Dieu qui est un Dieu d'amour, véritablement? Grande question, ça. C'est un autre problème auquel je n'ai pas de réponse. Mais cette prédestination universelle, elle me semble quelque chose d'extrêmement positif pour que nous puissions vivre véritablement le message de la Bible, véritablement ce message de bénédiction de la Bible qui court. Hein, Dieu voit que cela est très bon dans la création. J'aurais pu prendre ce texte aussi, puisque très bon, c'est toujours c'est agréable, c'est lors de la bénédiction. Hein, Abraham part avec la bénédiction de Dieu, et ainsi de suite. Le peuple est en mouvement avec la bénédiction de Dieu. Jésus est reçu à Jérusalem. Il y a des bénédictions qui sont produites aussi, qui sont dites à ce moment-là. Et c'est avec ce Jésus qui est là, qui entre à Jérusalem, que cette bénédiction va être amplifiée, va nous atteindre au cœur même de notre vie. Dans le texte des Galates, pardon, il est dit cette phrase, moi, qui me frappe. Il est né du Saint-Esprit, il est né d'esprit, il est né d'une femme. Il est né d'une femme. Là aussi, c'est intéressant. Il n'est pas né de Marie ou de Joseph. Il n'y a pas de berger, il n'y a pas de mage, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas le chant des anges. Il est simplement né d'une femme qui n'est même pas nommée. Vous voyez ? Ce qui frappe sans doute Paul et les premiers disciples, c'est cette humanité du Christ, cette profonde humanité du Christ. Jésus est né d'une femme. Il n'y a pas d'évangile de l'enfance. C'est à la fin du 1er siècle qu'on va rajouter l'évangile de l'enfance, sans doute à cause des influences du milieu dans lequel le christianisme s'est développé. Mais ces évangiles de l'enfance sont véritablement de l'ordre de la mythologie, complètement, je veux dire. Il faut voir les choses comme elles sont. Je veux dire, elles ont un discours théologique qui est intéressant, sur lequel on peut prêcher, on ne peut pas dire le contraire. Le Magnificat, on peut dire des tas de choses sur la justice, etc., à partir du Magnificat de Marie. Mais Marie n'a jamais chanté le Magnificat. Je veux dire, c'est quand même une ineptie que de soutenir une chose pareille aujourd'hui. En revanche, il est né d'une femme. Et c'est ça qui m'intéresse là aujourd'hui. Parce que la bénédiction en Jésus-Christ, elle va passer à travers la profondeur même de l'humain. Non, véritablement, Jésus, ce n'est pas un héros. Il naît, on ne sait pas très bien où ni de qui, je veux dire. Et je réfléchissais à ce que m'avait dit quelqu'un qui m'avait balancé en pleine figure, comme cela, oh, Jésus, il est né d'une prostituée et d'un légionnaire romain. Je veux dire. Puis alors j'étais scandalisé. Puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Finalement, c'était quelque chose qui me plairait bien. Parce qu'on ne peut pas descendre plus bas. Une prostituée et puis un soldat de passage, vous voyez un peu le truc, hein? Imaginez la scène. Prenez une maison de passe, un des plus sordides de la Palestine, avec ses légionnaires qui étaient des drôles de types, d'une brutalité incroyable. La Légion était d'une brutalité, on ne le dit pas trop dans l'histoire, mais enfin, c'était vraiment des soudards, les types. Hein. Et ils ont pratiqué le génocide, enfin bref. Et bien que Jésus soit né là, je me suis dit finalement, c'est pas si bête comme idée. La personne qui avait voulu me choquer, en fait, m'a fait réfléchir. Je me suis dit oui, si là, seulement c'était la réalité, au plus bas de l'humanité, au plus bas de l'humanité. Voilà. Jésus est né là-dedans. Il n'est pas un héros. Il n'est pas Dieu non plus. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Voilà. Ce qui me plaît dans Jésus, c'est que je peux me retrouver dans sa figure d'humanité. Ce n'est pas un ange non plus. D'abord, ça se saurait. Puis si c'était véritablement un ange, je n'aurais pas cassé la figure au vendeur du temple. Hein ? Par exemple, je ne sais pas s'il est parfait, Jésus. Il ne correspond pas à la morale humaine. Vous imaginez, en 1942 ou 43, quelqu'un de connu qui serait allé manger, je sais pas, moi c'est les gens qui bâtissaient le mur de l'Atlantique et qui s'enrichissaient là-dessus, vous savez, avec les Allemands, au vu au-dessus de tout le monde, en disant, ben salut, il est rentré chez cette personne, vous savez ce collabo dégueulasse là qui s'enrichit là, hein, sur le dos des résistants, des Français, etc. Le salut est rentré chez lui. Moralement, c'est pas évident, hein, je veux dire. Pourtant, Jésus l'a fait. Ça lui a coûté cher, vous me direz. Oui, je crois qu'il est aussi anti-loi. La loi, elle est utile, évidemment. Mais, là, je suis en train de lire un livre de Boris Cyrulnik, hein, si la loi devient un carcan, et il le perçoit très bien, elle devient quelque chose de très négatif, parce qu'elle paralyse, elle empêche la liberté de s'exprimer complètement. La loi, elle est intéressante, parce qu'il faut la suivre d'un côté, mais il faut la transgresser de l'autre. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de policiers dans la salle, mais enfin, je vous connais tous, je sais qu'il n'y en a pas. Je veux dire, mais c'est un peu ça, je veux dire. Il faut pouvoir transgresser la loi. Je veux dire, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Je veux dire, en même temps, il faut la suivre. C'est un équilibre qui est difficile, évidemment, à tenir. Mais Jésus est au-delà de la loi, évidemment, et ainsi de suite. Et puis, Jésus n'est pas pour la perfection. Il ne demande pas aux gens d'être parfaits. Jamais il a dit aux lépreux, aux prostituées, hein, aux collecteurs d'impôts d'être des gens bien. Non. Il n'y a rien de tout ça. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est de dire aux gens, vous êtes là, ben, soyez ce que vous êtes dans la liberté. Et c'est ça la bénédiction. Accomplissez vous-même et lancez-vous dans la vie. Si Abraham est parti, si le peuple a quitté l'Égypte, si le peuple est revenu à Jérusalem, si Jésus s'est lancé dans son aventure et si les apôtres ont suivi et ainsi de suite, c'est parce qu'ils ont eu quelque chose qui les a portés à être eux-mêmes véritablement et à se lancer dans l'aventure, à oser aller dans l'aventure, à partir, parce qu'il y a une bénédiction. Et en Jésus-Christ, cette bénédiction, elle est telle en Jésus-Christ qu'elle va toucher le fin fond de l'humanité. Les gens qui sont véritablement au bout du rouleau, au bout de la route, là, vont être touchés parce que Jésus est véritablement comme eux, qu'il est de notre nature et qu'il est porteur de cette bénédiction. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on saisit, à travers le parcours biblique, que la bénédiction qui s'accomplit en Jésus-Christ, qui vient couronner toutes les bénédictions, finalement, est la bénédiction d'un Dieu, qui est un Dieu fondamentalement un Dieu d'amour. Voilà, que Dieu vous bénisse les uns et les autres et qu'il vous garde pour toute cette année et bien d'autres encore, évidemment. Amen. Voilà, je vous fais part de quelques annonces pour l'année, pour la semaine à venir. Demain soir, si vous avez des insomnies de 10h à minuit, vous pouvez écouter L'Antenne est à vous. Je serai avec Louis Pernaud, là, hein, pour répondre aux questions. Louis Pernaud, ça vaut le coup de l'entendre, hein, d'hier, parce que il est quand même très très bon théologien et a une très grande culture aussi, donc c'est intéressant. Il y a la pause biblique et on fait le livre de Job mardi midi. Et jeudi soir, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller à Versailles à 20h chez les chères sœurs, comme on dit, comme je les appelle, les diaconesses. Je servirai le culte. Alors, aussi bien lundi soir que vendredi soir, je fais des remplacements, là. Je ne sais pas si la grippe fait des ravages, mais visiblement, il y en a qui sont un peu KO, parce que ce n'était pas prévu au programme. Enfin, voilà. Mais enfin, moi, je le fais avec plaisir, parce que c'est toujours intéressant de partager comme cela l'Évangile. Alors, si vous ne connaissez pas le site de Versailles, c'est intéressant parce que leur temple qu'elles ont construit au fond de leur parc, là, est tout à fait moderne. C'est une grande structure en verre, vous voyez, hein, et à l'intérieur de cette structure, il y a comme un panier renversé, en bois tressé, vous voyez, hein, et c'est à l'intérieur de ce, entre guillemets, panier renversé qu'a lieu le culte dans l'atmosphère des diaconesses. C'est quand même assez chouette, hein, je veux dire, rien qu'au niveau architecture et au niveau de leur chant, de l'atmosphère qu'elles dégagent, c'est quand même intéressant. Je ne vous dis pas ce que la prédication sera, évidemment, parce que je n'y ai pas réfléchi encore, ça va de soi, le dire, mais enfin voilà, donc je voulais vous le dire, c'est tous les jeudis soirs, hein, à 20h, il y a un culte. Voilà. Et puis dimanche prochain, il y a le culte normal comme il se doit. Et c'est Fred qui est à l'orgue. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, hein? Oui, voilà. Je vous le dis. Hein. Et ça me permet de le remercier au passage, évidemment, pour l'accompagnement à l'orgue et au clavecin. Puisqu'on est dans la musique, n'oubliez pas que ce soir, il y a la cantate, puisque c'est le premier dimanche du mois. Hein. Quoi d'autre? J'ai rien oublié? À la sortie, il y a un rafraîchissement. Il y a quelques pots de confiture qui ne sont pas des restes de la vente, mais qui ont été faits spécialement. De l'avis de ceux qui les ont goûtés, la confiture est bonne. Voilà. Si vous aimez ce genre de truc. Bon. Et puis, on a quelques bouteilles de Beaujolais. C'est cruel de me faire la promotion de vente de vin, moi qui suis à la Croix-Bleue depuis plus de 30 ans. Mais... Mais le Beaujolais, il est en vente aussi. Alors lui, c'est un reste de la vente. Beaujolais, il faut le vendre assez vite parce que ça vieillit pas, je crois. Hein, ceux qui connaissent bien là, non, hein, c'est ça. Hein, bon, voilà. Donc profitez-en. Voilà. Mais enfin, allez-y doucement, hein, que j'ai pas à vous récupérer après. Voilà. J'ai rien oublié. Non, c'est bon. Non, l'offrande, je n'ai pas oublié. Ben, vous savez, j'ai dû vous la raconter, je la raconte souvent cette histoire. François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France, était pasteur à Rouen. Vous voyez ? Et à Rouen, le temple Saint-Éloi de Rouen, c'est une ancienne église gothique, comme tous les lieux de culte de Rouen, évidemment. Donc c'est majestueux, tout ce que vous voulez. Vous avez une hauteur de voûte fantastique. Et le temple a été construit par les ducs de Normandie sur un ancien bras de la Seine qui a été comblé, de telle sorte que les îles ont été rajoutées à la ville. Je veux dire, voilà, le problème, c'est que c'est un peu humide et que c'est pas chauffable. Les grandes églises sont inchauffables. Alors imaginez en plein hiver, lorsque l'humidité remonte de la Seine, vous voyez là, par capillarité, et qu'il fait des températures comme aujourd'hui. C'est-à-dire, vous entrez dans le temple, si vous n'y arrivez pas avec votre couette, vous aurez froid. Hein, je veux dire. Et à un baptême, en plein hiver, François prend l'eau du baptême pour le baptiser, toc, 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 c'était de la glace. Et poum, vous voyez, le type qui prend un glaçon sur la tête, je veux dire. Donc voilà, c'est pas une anecdote, c'est une vérité. Alors, ceci pour vous annoncer l'offrande. Vous voyez, vous ne croyez pas que... Hein, vous voyez qu'il fait bon, il fait chaud ici, on a refait le chauffage cette année. Ah oui, et oui. Hein, et donc, ça fait partie de nos frais, du vécu, etc. Notre offrande, elle sert à ça. Elle sert, évidemment, à faire marcher cette maison. Et elle sert à faire marcher cette maison parce qu'il est important que cette maison soit au service de l'Évangile et que ce soit bien, que ça se passe bien, que le temple soit propre, repeint quand il faut être repeint, qu'il y a un ascenseur qui, pour ceux qui ont du mal à monter à pied, qu'il y ait du bon chauffage lorsque vous venez en hiver, qu'il y ait des belles orgues, et ainsi de suite. Je veux dire, voilà, hein, ça sert à ça pour que l'Évangile puisse être correctement annoncé. Hein, tout est au service de l'Évangile, annoncé un petit peu avec la couleur libérale, qui me semble quelque chose de tout à fait essentiel aujourd'hui. Voilà, donc je vous invite à participer à cette offrande, du coup, évidemment. Hein, c'était le truc pour vous l'annoncer, l'offrande. Et je vous invite à prendre, pour avoir la confiance hein, quand on participe à l'offrande. Hein. Et donc je vous invite à prendre le cantique 423 dans les bleus. Et le 423, c'est la foi renverse devant nous. Vous le connaissez bien, celui-là, mieux que le cantique 1. Je crois que lorsqu'on prie, il faut prier comme cette dame à laquelle je faisais référence, là que j'ai entendu ce matin. C'est arriver à sortir de soi pour aller vers les autres et vers le monde en pensée et en acte. Parce que en allant vers les autres, on peut faire un retour sur soi et à partir de ce moment-là, agir pour les autres. Je crois que la prière, c'est d'abord chercher en nous les richesses que Dieu a placées au cœur de nos vies pour pouvoir les mettre en action. Afin qu'une bénédiction ne soit pas qu'un mot vain, mais soit vraiment quelque chose de l'ordre de la réalité. Alors il faut penser à la paix, évidemment, hein, en songeant à tous ces peuples qui sont en guerre depuis des années pour certains d'entre eux. Il faut penser à ceux qui sont victimes de la violence, bien sûr, de quelle que soit la violence, mais aussi il faut penser à ceux qui pratiquent la violence. Parce que c'est une prison terrible, une idolâtrie qui écrase l'individu. Pensez à des malades, évidemment, des personnes qui sont seules dans la vie, des parents, des amis que vous avez, évidemment, des gens qu'on aime bien, qu'on connaît, et puis tous ces gens dans le monde qui sont là avec leurs projets, leurs vœux, évidemment, leur vie, avec les difficultés qu'on connaît et les joies qu'il peut y avoir, et tant d'autres choses. Priez pour la création aussi. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, que ton nom est magnifique. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. À toi. Notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Soyez certains qu'une parole de bien a été prononcée sur vos têtes. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas pasteur, parce que ma théologie est ainsi. Je me trompe peut-être, mais je préfère me tromper en vous disant ça qu'en vous disant que certains sont bénis et d'autres maudits, évidemment. Oui, je suis certain que la bénédiction est sur la tête de chacune et chacun d'entre nous, ça certainement, véritablement. C'est pour ça que lorsqu'on se quitte, il y a toujours ce qu'on appelle l'envoi. Aller dans le monde avec confiance, en ayant la certitude de cette bénédiction, comme Abraham l'a fait, comme les Hébreux l'ont fait, comme Jésus l'a fait, comme les apôtres l'ont fait. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Comme je dis souvent, le monde a besoin d'entendre une parole de bénédiction, de rencontrer des gens qui ont conscience de cette bénédiction, non pas parce qu'ils sont formidables, mais parce que cette bénédiction a été posée sur leur vie, sur leur tête, de manière tout à fait gratuite, et qu'elle fait écho à la bénédiction de celles et de ceux que nous rencontrerons. Alors allez, allez porteurs de ce message dans le monde qui en a besoin, non seulement aujourd'hui, mais malheureusement, j'en suis persuadé pour les jours qui viennent et les mois qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Sa lumière est là pour vous éclairer véritablement à l'intérieur de vous-même et tout autour de vous, afin que vous puissiez rayonner. Allez en paix, avec la bénédiction de Dieu, avec cette parole qui a été prononcée dans l'éternité, qui dépasse le temps et qui vous touche, quoi que vous fassiez et qui que vous soyez. Oui, le Seigneur vous bénit et vous garde maintenant et à jamais. Allez en paix. Amen.